J'aimerais parler sur le fils aîné, dans Luc chapitre 15, verset 25. Jésus dit « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. » Il s'agit de la parabole du fils prodigue, et nous connaissons bien le premier fils qui s'est perdu loin de la maison du père. Il a donc demandé son héritage, il a tout dépensé dans un pays éloigné, surtout loin, le plus loin possible de la maison du père. Il a vécu dans la débauche, loin des principes que lui avait inculqué son père. Et quand il a eu tout dépensé, il s'est retrouvé dans le besoin et s'est mis au service de celui qui gardait des pourceaux pour avoir quelques subsistances, et il voulait bien manger les carouges, la nourriture des porcs, parce qu'il était tellement nécessiteux, tellement dans le besoin. Et finalement, il est rentré en lui-même et il s'est souvenu de la maison de son père, c'est-à-dire la présence de Dieu, et il a dit « J'irai vers mon père et je reconnaîtrai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il a fait cette démarche, il est donc revenu, on sait que le père l'attendait, le père a couru se jeter dans les bras de son fils qui revenait, et il l'a rétabli dans sa maison en lui donnant une bague au doigt, des souliers aux pieds et une tunique propre. Ça, c'est le fils prodigue donc qui est réhabilité, le père se réjouit, mon fils était mort, et voici, il est revenu à la vie. C'est-à-dire, il était mort spirituellement, il était séparé de Dieu. Maintenant, il est réconcilié avec Dieu. On connaît bien cette première partie de la parabole, puisque c'est l'histoire du fils prodigue. Mais il y a un deuxième fils, en fait, dans cette parabole. C'est celui dont nous avons lu le récit. On l'appelle le fils aîné. Celui qui est resté à la maison, celui dont on ne parle pas trop. Celui qui a servi fidèlement pendant toutes ces années, où le fils prodigue vivait dans la débauche. Et puis, on va s'intéresser à ce deuxième fils et voir un petit peu son attitude, parce que c'est vrai qu'il a servi fidèlement, mais finalement son cœur n'était pas attaché à son père. Alors le premier point, c'est l'attitude du fils aîné. L'attitude du fils aîné, la première attitude que je remarque, c'est d'abord une attitude de serviteur. Il servait dans la maison du père, et ça, on pourrait dire, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de servir le Seigneur. Il a été donc fidèle, il a travaillé dans les champs, il s'est occupé des troupeaux de son père, il s'est occupé de la maison, de la terre. Et vous savez, quand on travaille en extérieur, des fois il fait très chaud, sous le soleil, des fois il pleut, donc c'est pas toujours agréable. Et puis, il a servi fidèlement pendant des années, tout le temps où le fils prodigue, lui, vivait belle vie, dépensait l'argent n'importe comment. On pourrait dire que le fils aîné est resté sérieux, il est resté fidèle, il avait compris l'importance du service, donc on voit quand même certaines qualités chez lui, dans la fidélité. Il n'attendait pas que les autres fassent, mais il se mettait à l'œuvre. Bon, on va dire ça, c'est positif. Maintenant, si on regarde son cœur, parce qu'il y a les œuvres, c'est important de servir Dieu, mais ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Et notre cœur, ça ne se voit pas à l'extérieur. Notre cœur, c'est du dedans, c'est Dieu qui le voit. Et son attitude de cœur, ça, c'est ce qui compte pour Dieu. Quand on creuse un petit peu, quand on gratte la surface, le service, son activité, c'est très bien. Qu'est-ce que Dieu voit dans son cœur? Bien, on le remarque assez rapidement. Il y a de la colère, il y a de la haine, il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie, il y a un sentiment d'injustice, il y a plein de problématiques dans son cœur qui ne sont pas réglées. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Le service, c'est important, mais si vous avez un cœur rempli de jalousie, un cœur rempli de haine, comme ce fils aîné, si vous servez dans la maison de Dieu, mais finalement vous êtes animé de colère parce que vous trouvez que c'est pas juste, Dieu a béni celui-ci et Dieu ne m'a pas béni, et vous êtes amer, ben votre cœur finalement n'est pas en communion avec le cœur de Dieu. Pierre en parle dans Actes chapitre 8, il y a eu cette rencontre avec Simon le magicien. Simon le magicien, c'était un chrétien. Il était d'abord dans les arts occultes, mais il s'est converti à l'évangile lorsque il y a eu la prédication de l'évangile par Philippe l'évangéliste. Il a été donc touché par la grâce, il a donné son cœur au Seigneur et il s'est même fait baptiser d'eau par immersion. Et puis ensuite, il a vu que Philippe, quand il priait pour les gens, il y avait le Saint-Esprit qui descendait sur eux et il se mettait à parler en langue. Il y avait des baptêmes du Saint-Esprit. C'est quelque chose à laquelle nous devons aspirer quand nous sommes chrétiens, nés de nouveau, baptisés, recherchés, le Saint-Esprit. Eh bien, il y avait des baptêmes du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, nous pouvons nous attendre au baptême du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, des parler en langue vont jaillir. Alors, dans Actes chapitre 8 et au verset 22, Simon demande à Philippe, « Moi, j'aimerais bien aussi avoir ce pouvoir quand je prie pour les gens pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. » Et là, on voit que dans son cœur, il y avait un certain orgueil, une certaine manière de faire qui était encore liée à son passé. Et voyez ce que dit Pierre. Il lui dit, « Repens-toi donc de ta méchanceté. » Où est-ce qu'était cette méchanceté? Elle était dans son cœur. Alors ça ne se voyait pas à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, c'était un chrétien de cette ville de Philippe, où Philippe prêchait, donc de Samarie. Il faisait partie de l'église de Samarie, il servait dans l'église de Samarie, mais il y avait de la méchanceté dans son cœur. Il dit, « Prie le Seigneur pour que les pensées de ton cœur, la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois, qu'est-ce qu'il voit encore dans son cœur? Un fiel amer et même des liens de l'iniquité, les liens du péché. » Une autre traduction dit, « Tu es rempli d'amertume et tu es prisonnier du mal. » Alors ça se voyait pas à l'extérieur, mais c'était dans son cœur. Voilà un problème pour un chrétien qui vient donc fidèlement, qui sert le Seigneur et qui même veut aller plus loin. La Bible dit, il suivait tout le temps Philippe, le ministère en place, il voulait servir. Mais il y avait dans son cœur des problématiques qui n'étaient pas réglées. Et Dieu regarde au cœur. Il veut voir un cœur pur. Il veut voir un cœur consacré. Donc, un problème de ce fils aîné, on voit que c'est des problèmes qui existent même dans l'Église, ben c'est son manque de communion avec le Père et avec son frère. Lorsque le père va vers le fils aîné et que le fils prodigue est dans la maison, la Bible dit que le fils aîné ne veut même pas rentrer dans la maison parce qu'il y a son frère qui est là. Et il dit, mais ton fils qui a dépensé tout l'argent, il est là dans la maison et il veut même pas rentrer. Ça veut dire quoi? Il est animé de colère et il prend des mauvaises décisions. Il se met à l'écart. Il veut pas la communion, il se dit « moi j'ai raison, l'autre il a tort ». Et la colère vous fera toujours prendre des mauvaises directions, des décisions insensées, peut-être par la colère vous allez même frapper votre conjoint, votre enfant, même quelqu'un peut tuer par la colère parce qu'il est animé d'une colère, il se maîtrise plus, il prend un morceau de bois, il frappe et la personne tombe, elle peut mourir. Tout ça c'est sous la colère. Alors si la colère vient, il faut la rejeter, il faut pouvoir la maîtriser, il faut pouvoir s'en débarrasser. Il y a un proverbe chapitre 19 et verset 11 qui dit ceci, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. » Si nous développons cette sagesse, si nous aimons le Seigneur, si nous le mettons toujours à la première place, alors il y aura une sagesse spirituelle, un amour pour Dieu, un amour pour notre prochain, et on sera lent à la colère, c'est-à-dire que la colère ne dominera pas sur votre vie, mais c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain qui dominera. Et il met sa gloire à oublier les offenses, c'est-à-dire que vous pourrez même pardonner, vous pourrez même tourner la page, oublier le mal qu'on vous a fait, et de dire maintenant, allons de l'avant pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est l'homme qui est en communion avec Dieu, qui est rempli de sagesse. Et si vous vivez toujours avec la colère parce que vous vous rappelez du mal qu'on vous a fait, et il y en a qui le transportent avec eux depuis l'enfance, peut-être quand vous étiez enfant, on vous a fait du mal, on vous a bousculé, on vous a volé, peut-être qu'on vous a volé votre goûter, et ça vous rumine encore dans l'esprit, hein, on m'a volé mon goûter, quand j'avais 4 ans. Et vous vivez avec cette sorte de haine, cette vengeance, et si vous retrouvez celui qui vous a voler votre goûter, là, vous allez vous venger. Eh bien, ça, c'est quelque chose dont il faut être délivré. Délivré de la colère, délivré de la haine, du souvenir. Parce que tant qu'on rumine les pensées du passé, donc quand on n'arrive pas à oublier les offenses, comme dit la parole, il met sa gloire à oublier les offenses. Est-ce qu'on peut arriver à oublier le mal qu'on nous a fait? Avec l'aide de Dieu, c'est possible, mais tout seul, on ne peut pas y arriver. Vous savez, c'est comme l'ordinateur. À un moment donné, quand vous êtes sur l'ordinateur, au bout d'un certain nombre d'années, il y a des virus qui s'incrustent, ils commencent à ralentir, ça marche pas bien, mais il y a une solution, c'est une restauration complète. Vous restaurez tout, et il ressort comme il était neuf à l'usine. Cette restauration complète, elle existe. Et à un moment donné, il faut passer par là, il faut faire une restauration, sinon... en fait, les virus s'accumulent, ça marche pas bien. Même des fois, vous mettez des antivirus, mais ça marche pas bien. Donc, une restauration complète, là, ça redémarre bien. Eh bien, dans notre vie, c'est la même chose. Il nous faut une restauration complète par le Saint-Esprit qui nous permet d'oublier le passé et d'aller de l'avant pour le Seigneur. Restauration complète, on met de côté les choses mauvaises qu'on nous a fait. On oublie les offenses, comme dit la parole. On met de côté le mal, peut-être la vengeance, les choses mauvaises qu'on vous a faites, et on peut se tourner vers Dieu et vers l'avenir avec confiance. Ça, c'est une grâce de Dieu. C'est très important de traiter le plus rapidement possible la colère. Parce que tout le monde se met plus ou moins en colère, ça nous arrive à tous, les colères qui viennent. Mais Éphésiens 4, 26 nous dit, si vous vous mettez en colère, il s'adresse ici à des chrétiens, ça leur arrive, ils se mettent en colère, ils disent, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Autrement dit, et il finit, et ne donnez pas accès au diable, mais que le soleil ne se couche point sur votre colère, ça veut dire ne gardez pas cette colère, ne laissez pas cette colère produire du fruit en vous qui va vous propulser vers des actes insensés. La colère peut arriver, elle va créer une brèche dans votre cœur, mais vous pouvez encore bien réagir si vous ne laissez pas cette colère prendre dans votre cœur un espace si important, lui donner libre cours. Pourquoi ? Parce qu'il dit, si vous ne le faites pas, si vous vous couchez avec votre colère, si vous l'entretenez, eh bien vous êtes en train de donner un accès au diable. C'est ce que dit la parole. C'est pour ça qu'il dit, ne laissez pas cette colère s'infiltrer, prendre racine dans votre cœur, parce que derrière, il y a un accès au diable. Donc, c'est très important de réaliser la parole de Dieu. Et quelqu'un qui donne un accès au diable, bien, il va prendre des décisions insensées, il va s'engager dans des chemins qu'il va regretter, peut-être il va frapper, il va cogner, il va brutaliser, la colère va faire son œuvre, et il peut aller jusqu'à des actes de folie. La colère, vous ne vous maîtrisez plus, il y a derrière, en fait, la colère, il y a le diable qui anime un feu pour vous pousser au mal. Donc, il y a des mauvaises pensées. Le diable va vous pousser dans la mauvaise direction, mais vous avez la possibilité de renoncer à la colère et ainsi de ne pas donner accès au diable. Alors, c'est un élément fils aîné, c'est son manque de communion avec le père et avec son frère. Un autre élément qu'on voit chez ce fils aîné, c'est son amertume qu'il a développée pendant toutes ces années. Le fils aîné, en fait, rappelle à son père les années qu'il a passées à son service. Et au lieu de servir dans la joie et de réaliser que c'est une bénédiction de servir le père, il l'a vécu comme un esclave. Il dit, ça fait des années que moi je sers sous tes ordres et jamais tu ne m'as même donné un cheveu. Il est amer. Alors j'ai trouvé une autre version qui dit, cela fait tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Et il considère son père comme un maître dur et non pas comme un père. C'est un problème quand on considère Dieu comme un maître dur et non pas comme un père. On a beaucoup d'exemples dans la parole, notamment ce serviteur dans la parabole des talents. Chacun avait reçu des talents, cinq talents, l'autre deux talents, l'autre un talent. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent, il est allé l'enterrer. Et quand il revient, il n'y a aucun intérêt. Les autres avaient produit des intérêts. Mais on voit dans ses paroles, il dit, je sais que tu es un maître dur. Voilà sa vision de son maître. Tu es un maître dur. Comme Dieu, certains ont la vision de Dieu qui est dur. Donc j'ai enterré le talent et je te le restitue tel que. Eh bien, le maître lui dit, mais toi tu es un mauvais serviteur. Tu n'as pas fait fructifier le talent. Donc on voit que le frère aîné est de ce type-là, il considère que son père est dur. Et puis, son frère, il est jaloux des bénédictions que son frère obtient. Pourquoi ? Parce que pour son frère, le père a égorgé le veau gras. Le veau gras, on le réservait pour les grandes festivités, les occasions, les mariages, les fêtes extraordinaires. Eh bien, il n'a pas hésité, le père, à tuer le veau gras. On le réservait pour ces fêtes extraordinaires. Et on voit la jalousie qui transparaît du fils aîné, parce qu'il dit, mais pour moi, jamais tu n'as égorgé ou offert un chevreau, la jalousie. Eh bien, figurez-vous que la jalousie, on la retrouve même dans l'Église, parce que certains chrétiens sont jaloux d'autres chrétiens, parce que Dieu les a bénis, et que eux, ils ne sont pas encore été bénis. Donc ils se disent, pourquoi eux et pas moi ? Et ils sont jaloux. Et on est en train de développer une jalousie, un peu comme le fils aîné. Il était jaloux que son frère soit béni parce qu'il a eu le veau gras, il a eu les honneurs, et que lui, il n'a pas eu les honneurs. Mais chacun a sa part dans la maison de Dieu. Tout le monde n'a pas la même chose en même temps. Et quand on n'a pas compris la grâce de Dieu, que Dieu fait grâce, que Dieu donne avec abondance, si on n'arrive pas à se réjouir pour les bénédictions que Dieu donne aux autres, on n'a pas compris la grâce de Dieu. Parce que quand vous vous réjouissez pour les bénédictions que Dieu donne aux autres, vous vous mettez sur le chemin de votre propre bénédiction. Mais si vous êtes jaloux, si vous êtes amer, vous vous mettez sur le chemin de la condamnation. Donc on doit comprendre la grâce de Dieu, la grâce est pour tous, Dieu bénit. Et nous, ce que nous devons faire, c'est nous réjouir, comme dit la parole, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et nous devons aussi pleurer avec ceux qui pleurent. En fait, ce fils aîné donc n'arrive pas à se réjouir des bénédictions que Dieu accorde à son frère. Dans son cœur, il est jaloux. Un autre élément qu'on voit, le frère aîné, il exprime beaucoup de mépris pour son frère cadet. Il dit au père, « Et quand ton fils est arrivé, c'est-à-dire son frère, mais il l'appelle même pas, il dit pas « Mon frère est arrivé », il dit « Quand ton fils, mais c'est son frère, mais il le considère même pas comme son frère, il est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, il lui rappelle bien son passé dans la débauche, son passé dans le péché, vous voyez, il le juge. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. On dirait que ça lui est resté en travers de la gorge. Dieu a béni ce fils prodigue qui avait vécu dans la débauche. Il l'a pardonné, il l'a rétabli dans la maison et il a tué le veau gras. Eh bien, ça ne passe pas. C'est pas très gentil de parler comme ça de son frère. Eh bien, figurez-vous qu'on trouve la même chose dans l'Église où des chrétiens vont parler mal d'autres chrétiens. Ils vont les juger. Ils vont les condamner, ils vont les traîner dans la boue, ils vont rappeler tous leurs péchés passés, et il n'y a pas de pardon. Mais qu'est-ce qui s'est passé si vous lisez l'histoire ? le fils cadet qui a vécu dans la débauche, il a demandé pardon à son père. Et si vous demandez pardon à Dieu, vous êtes pardonné de vos péchés et vous recevez une nouvelle vie. Donc le frère n'a pas compris, le frère aîné n'a pas compris que son frère cadet, qui était parti dans la débauche, avait changé de vie, qu'il avait accepté le Dieu dans sa vie, qu'il avait renoncé à ses péchés et que maintenant c'était une nouvelle créature. On peut être chrétien et ne pas comprendre la conversion, la nouvelle naissance, la transformation que Dieu peut opérer dans un cœur. Mais si Dieu a pardonné votre frère, qui êtes-vous pour l'accuser? Qui êtes-vous pour rappeler ses péchés passés? Vous êtes en train de faire le rôle de l'accusateur. Il y a un accusateur dans la Bible. Vous savez comment il s'appelle? Satan. Satan, c'est l'accusateur. Mais ne soyons pas des accusateurs pour les frères, puisque la Bible dit que l'accusateur des frères, lui, il le fait jour et nuit devant Dieu, c'est Satan, le diable. Nous ne devons pas être les accusateurs des frères, nous devons les bénir, nous devons les accueillir. Alors, c'est vrai qu'il faut les réprimander si ils ont péché, mais qu'ils ne se repentent pas et qu'ils ne veulent pas changer de vie, ça c'est autre chose. Là, il peut y avoir effectivement des sanctions. Mais là, on voit une attitude d'un fils qui a péché, mais qui s'est repenti, qui est revenu dans la repentance et qui a été rétabli par Dieu. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est le pardon qui prévaut et non pas le jugement. Donc, on voit que le fils aîné est dans le jugement, la condamnation, il est dans l'accusation, il n'a pas d'amour pour son frère, il l'appelle ton fils, mais c'est comme si c'était pas son frère, il n'y a pas de communion. Maintenant, quand on regarde l'attitude du père, on a vu comment le fils aîné traite son père et son frère. Donc il dit que son père c'est un maître dur, il n'a même pas compris la relation avec Dieu qui doit être filiale, paternelle. Il traite son frère comme quelqu'un qui vit encore dans le péché, alors il n'a pas compris le pardon. Il n'a pas compris la nouvelle naissance et que Dieu peut donner un nouveau départ. Tandis que le père, lui, il va presser ce fils-là, ce fils aîné, à rentrer dans la maison. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas simplement un service pour lui, mais il veut une communion avec lui. Rentrer dans la maison, faire partie de la maison, être auprès du cœur de Dieu. Dieu désire avoir un cœur à cœur, un temps de partage. Pourquoi c'est important chaque jour d'avoir un temps de cœur à cœur avec Dieu, un temps de prière? Et si on n'a pas le temps pour Dieu, on sert, on va à gauche, on va à droite comme ce fils aîné, mais qu'on ne développe pas cette relation, eh bien on passe à côté de bien des grâces et des bénédictions. Parce que on n'a jamais le temps pour prier, on n'a jamais le temps pour méditer la parole, mais on veut faire des choses pour Dieu, eh bien on va être faible spirituellement. Et on va avoir l'attitude du fils aîné. Quand d'autres seront bénis, on va être jaloux, on va juger et on va avoir des paroles de condamnation. Donc le père lui dit, non, entre dans la maison, viens en communion avec moi. Et puis, il rectifie sa vision sur son frère. Le père lui dit, mon enfant. D'abord, il rétablit la relation qu'il y a entre le père et son fils, parce que le fils le considérait comme un maître. Mais le père lui dit, non, tu es mon enfant, tu es pas mon esclave. Donc Dieu nous dit ceci, tu es mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Donc le père ne considère pas ce fils comme un esclave, mais comme son enfant, comme l'autre. Le fils aîné, lui, il vit une relation d'esclave à maître, mais le père, il veut une relation de père à fils. Faut vivre cette dimension. Il faut comprendre notre position d'enfant de Dieu et non pas d'esclave qui est soumis mais dans la contrainte et qui n'a aucune relation d'amour avec le Père. Si vous ne comprenez pas la position de l'enfant de Dieu que Dieu veut pour vous, vous allez servir comme un esclave, mais vous finirez comme le fils aîné. Vous allez finir dans l'incompréhension de la relation avec Dieu, dans le jugement, dans la critique avec vos autres frères. Regardez Romains 8, 16, pour vous montrer combien Dieu veut que nous comprenions qui nous sommes. Il dit, c'est Paul qui dit, l'Esprit, donc le Saint-Esprit lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut passer par là. Il faut réaliser qui nous sommes en Christ. En Christ, nous sommes fils et filles de Dieu, et non pas des serviteurs ou des esclaves obligés de faire quelque chose pour Dieu, sinon on ne sera pas récompensé. On n'a pas compris quand on est. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc le Père rectifie sa vision pour lui dire, mais toi tu es un enfant, et un enfant de Dieu, il doit servir Dieu, d'accord ? Mais tu es d'abord un enfant, tu n'es pas d'abord un esclave. Tu es d'abord un enfant, et ensuite, toi, enfant de Dieu, tu vas te mettre au service de Dieu. Et c'est là que tu vas trouver la joie et la paix. Il lui rappelle les bénédictions aussi qu'il y a dans la maison de Dieu, en servant Dieu dans sa maison. Éphésiens chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ce frère donc, frère aîné, avait oublié les bénédictions de Dieu dans sa vie. Et si nous oublions les bienfaits de Dieu, bien, nous allons servir dans la contrainte et dans le fardeau. Il y a un chant qu'on prend parfois qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Ça, c'est notre part. Nous rappeler les bénédictions de Dieu, les bienfaits de Dieu. Et chaque jour, il y a des grâces. Chaque jour, même quand vous vous réveillez le matin, c'est déjà une grâce que la vie vous soit accordée. Eh bien, tous ces bienfaits, nous devons les mettre devant nos yeux. Et puis enfin, le Père lui enseigne à changer de vision sur son frère, puisqu'il lui dit, mais c'est ton frère, celui que tu juges. C'est ton frère, celui que tu vois d'un mauvais œil. Celui dont tu ne pardonnes pas les péchés, le Père lui dit, moi j'ai pardonné ses péchés. Toi, tu ne pardonnes pas ses péchés. Et il lui rappelle la réalité spirituelle. En fait, ce qu'il veut faire comprendre à son fils aîné, c'est au lieu de voir charnellement, humainement les choses, qu'il voit les choses spirituellement. Ton frère était mort. Il était mort spirituellement, il était dans le péché. Il s'est repenti et il est revenu à la vie. Maintenant, il est enfant de Dieu. Qu'est-ce que veut le Père ? Il veut que son fils ouvre les yeux sur son frère et qu'il le voit comme un enfant de Dieu racheté. C'est comme ça qu'on va changer de regard les uns sur les autres et qu'on va voir dans l'autre un enfant de Dieu. Un fils et une fille du roi des rois. Que Dieu nous ouvre les yeux, afin de ne pas juger charnellement, mais de comprendre comme Dieu comprend. Alors, il y a une bonne attitude du serviteur selon Dieu, si on peut en tirer une leçon, à partir de ce fils aîné. C'est-à-dire, si on prend le contre-pied du fils aîné, on va prendre la bonne attitude. D'abord, prendre la bonne décision de servir Dieu, oui. Sur ce point-là, il avait raison de servir Dieu, mais servir Dieu comme un père et non pas comme un maître dur. Comprendre qu'il est notre père. Josué dit, dans Josué 24, 15, « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc c'est une décision, mais Josué considère l'Éternel comme un père spirituel, non pas comme un maître dur. Personne ne peut décider de servir à votre place. Ça, c'est votre décision, c'est à vous de la prendre, mais surtout considérez qui est Dieu et soyez déterminés à le servir. Un autre élément pour la bonne attitude dans le service, c'est l'obéissance à Dieu. Dans 1 Pierre 4, 10, Pierre parle du service et il dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Ici, il s'adresse à des chrétiens et il dit « Mais le service, ce n'est pas une option, c'est quelque chose de normal dans les vies. Quelqu'un qui ne sert pas, c'est donc pas normal. Le service n'est pas une option, mais c'est une question d'obéissance. Que chacun de vous, c'est un impératif, que chacun de vous, chaque chrétien, mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc si vous ne servez pas encore le Seigneur, c'est que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Chacun, c'est bien chaque chrétien. Il n'y a pas donc des chrétiens qui servent et les autres. Chaque chrétien devrait être un serviteur ou une servante de Dieu, tous sans exception. On peut faire quelque chose pour le Seigneur. Rentrer dans la dimension du service, c'est obéir à Dieu. Donc c'est une question d'obéissance Et rappelez-vous que servir Dieu, ça consiste aussi à servir les autres et à se rendre disponible pour répondre à des besoins. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais au moins, on peut faire les choses que Dieu nous a donné de faire. La plupart des gens pensent, oui, mais des autres peuvent le faire. Oui, mais si chacun fait un petit peu sa part, eh bien, tout le monde est soulagé. Et puis, il y a une grande joie que Dieu va vous donner dans le service. Si vous comprenez qu'il est votre Père, si vous l'aimez, il vous donnera la joie pour son service. Et puis enfin, un autre élément que n'avait pas le fils aîné, mais que nous devons cultiver pour servir Dieu, c'est le zèle pour la maison de Dieu. Romains, chapitre 12, verset 11. « Ayez du zèle, et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Le zèle, c'est être motivé pour les choses de Dieu, être zélé pour ce qui concerne sa maison. C'est pour ça qu'il dit « Ayez du zèle ». Mais nous devons lutter contre la paresse. La paresse, c'est pas de Dieu, la paresse, c'est du diable. Il veut que les chrétiens soient paresseux, qu'ils sommeillent, qu'ils s'éloignent du service et des choses de Dieu, qu'ils restent loin de tout ce qui est l'œuvre de Dieu. Donc, ayez du zèle, mais ne tombez pas dans la paresse. C'est toujours plus facile de ne rien faire, de laisser les autres servir et de se mettre en retrait. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Ayons du zèle, soyons fervents d'esprit, et en servant le Seigneur, vous allez être renouvelés et bénis et fortifiés parce que vous êtes dans la volonté de Dieu. Donc, prions le Seigneur pour être à la place qu'il veut et faire l'œuvre qu'il veut, et soyons disponibles dans sa maison pour le servir. En conclusion, on voit bien le fils aîné qui n'avait pas compris la notion du service. Il servait, oui, mais il servait comme un esclave, il avait une mauvaise vision de Dieu, comme un maître dur. Donc le service, c'est très bien, il faut le faire. Mais Dieu nous demande de le faire de la bonne manière, en considérant que Dieu est un Père qui nous aime et que nous sommes à son service. Il avait perdu la vision spirituelle du service. Il avait perdu la vision spirituelle par rapport à Dieu, par rapport à son frère. Et si on perd la vision, on va réagir comme le fils aîné. On va avoir des paroles de jugement. On va être jaloux quand les autres sont bénis. On va vouloir critiquer parce que Dieu, il a donné à l'un et moi, il m'a pas donné. Dieu a donné une bénédiction à ce frère, à cette sœur, et moi, j'ai pas. Et on va être jaloux. Donc, vous pouvez prier, chacun pour votre part, pour que Dieu vous donne une bonne vision du service. Que nous puissions servir de tout notre cœur, avec empressement, avec une bonne vision de Dieu, avec une bonne vision de nos frères, de nos sœurs. Le service est une source d'épanouissement. On peut servir de la mauvaise manière comme le fils aîné, mais on peut servir de la bonne manière, comme la parole nous le montre, en ayant un cœur tourné vers le Seigneur dans la communion avec Dieu. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole, Seigneur, qui nous montre le chemin du véritable serviteur, de celui qui te sert par amour, qui a compris que tu es un Père aimant, qui a compris que tu distribues tes grâces et tes bénédictions comme tu le veux, parce que tu fais grâce comme tu le désires. Et nous voulons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous ne voulons pas être comme ce fils aîné qui avait de l'amertume, qui avait de la jalousie à chaque fois que son frère était béni, à chaque fois qu'il avait une grâce dans sa vie. Mais ce soir, nous voulons te bénir pour les grâces que tu donnes à nos frères, à nos sœurs. Et Seigneur, nous savons que tu as aussi une part pour nous, pour chacun individuellement. Et nous voulons rester dans la louange, dans la reconnaissance, dans cette vision de ce Dieu d'amour, de ce Dieu qui pourvoit, de ce Dieu qui donne l'excellence. Et merci d'encourager chacun dans ses œuvres, dans ses services, afin que nous soyons fortifiés ce soir, afin que nous soyons renouvelés dans ta maison, afin que tu nous donnes de la joie à ton service et que nous puissions le faire de tout notre cœur, non pas comme pour plaire aux hommes, mais pour te plaire, pour chercher ta volonté, pour être en communion avec toi, pour garder une bonne vision de nos frères, de nos sœurs, de ceux que tu as rachetés. Nous ne voulons pas rappeler leurs péchés passés, nous ne voulons pas mettre toujours devant leurs yeux leurs fautes, mais constamment, Seigneur, avoir cette vision de ta grâce, que toi tu pardonnes, que tu donnes un nouveau départ, que tu accordes la repentance, que tu accordes la nouvelle naissance, que tu accordes une nouvelle vie. Oui, dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen.